D'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Alors, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, il va-tu avoir du baseball? On va-tu avoir du baseball à Montréal?
Ben, ça a bien l'air, Richard, parce que notre journaliste Olivier Bourque qui a fait le tour du dossier, là, ce qu'on a appris selon nos sources, là, c'est qu'il y aurait une annonce qui serait faite après les élections municipales.
Là. Ah oui?
Ouais. Et donc, sur plusieurs fronts. Hein, il y a d'abord la négociation entre Claridge, donc Stephen Brofman, puis Pierre Boivin avec les dirigeants des Rays, là, qui s'accélère. Donc, il y a même, selon nos sources, une rencontre prochaine là, dans une ville floridienne pour finaliser cette annonce-là. L'autre front, évidemment, qui est le plus important, c'est la question du stade. Donc, on le sait, le stade, là, ça va être l'enjeu majeur parce que ça va nécessiter du financement de l'État. Et on a parlé à Pierre Fitzgibbon vendredi,
oui.
Qui était à Montréal, et il dit on a plusieurs scénarios, il est encore trop tôt pour en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, il est prêt à faire quelque chose. Hein? Mais est-ce que ce sera suffisant pour le groupe Montmagny? C'est encore à déterminer. Fait que c'est, les discussions sont avancent rapidement du côté du financement. Et ce qu'on a appris aussi sur un autre front, c'est que Michel Leblanc, qui est le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, disait qu'ils sont en train de créer des ponts avec les gens d'affaires de Tampa Bay. Il dit, j'ai eu des échanges avec mes homologues en Floride pour voir comment pourrait créer des meilleures synergies entre nos deux bases d'affaires. Donc, tu vois, il y a le front financier d'affaires qui avance, il y a le front gouvernemental à l'aide publique, puis il y a le front, ces gens d'affaires qui partagent de l'information sur comment augmenter les synergies entre Tampa Bay et Montréal pour avoir une équipe de baseball à temps partiel à Montréal à une date encore à déterminer.
Et t'as le front Roger Brulotte. Yves, je me ferai pas des amis. Je me ferai pas des amis auprès des passionnés de baseball. Mais Christy, on a un stand vide qui sert à rien. Qui sert strictement à rien. Une fois par année, il y a des courses de Monster Truck puis il y a le salon des animaux domestiques. C'est tout. Pourquoi on fait pas le baseball là?
Ben, tu sais, Michel Girard avait fait une chronique là-dessus qui disait les Brofman vont envisager le stade olympique. Mais je pense qu'au-delà du stade lui-même, le stade, là, tu sais, le baseball, là, qui est envisagé, évidemment, tout ça dans le bout de Griffintown, le Ben Saint-Pierre, là. Je pense que l'idée, là, qu'au-delà du baseball, c'est tout un développement immobilier qui doit être en vue dans ce côté-là, là. C'est l'idée de peut-être créer un nouveau centre-ville moderne, tu comprends-tu, autour de Montréal. Je pense que l'élément baseball est probablement un des éléments, mais il y a certainement du développement immobilier autour de ça. Et rappelle-toi le REM, là. Tu sais, le REM actuellement, c'est beau, là, toute la question d'avoir un système de transport public, mais tout autour du REM est en train de se développer toutes sortes de projets immobiliers où est-ce que tu vas avoir des gens qui vont habiter à proximité avec des commerces qui vont prendre le transport public, etc. Donc, il faut jamais oublier la dimension immobilière. Donc, autour du stade olympique, pas sûr que tu as toute cette possibilité de développement-là, mais c'est pas moi ça qui est en train d'être discuté dans la tête des dirigeants autant gouvernementaux, d'affaires et le clan Claridge, là, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le centre-ville de Montréal.
Écoute, aujourd'hui, entrevue très intéressante avec Louis Garneau, monsieur Bicycle, qui a eu des problèmes de santé mentale. Il a publié un livre, d'ailleurs, où il en parle ouvertement. Entre autres, dans l'entrevue, là, il a nommé son fils un peu pour le remplacer quand il avait eu des problèmes. Il l'a nommé comme à la tête de l'entreprise, puis il dit que ce fut une erreur. Est-ce que j'ai cru comprendre dans le texte qu'il se parle plus, là. Il y a un froid entre lui et son fils, hein?
Ouais, ben, je crois que, écoute, moi, je me suis tapé la lecture de « Je suis tombé deux fois », là. C'est quand même un entrepreneur connu du Québec. Puis, on a toujours l'impression qu'ils sont un peu invincibles, ces gens-là, là. Mais lui, il confirme que, tu sais, les dirigeants, là, font face à toutes sortes de diversités, tu sais. Puis, un cas, c'est justement toute la question que quand tu as des problèmes financiers, ben, tu regardes autour de toi, là, tu sais, puis tu regardes la relève, tout ça, puis il a fait confiance à son fils, William, qui était âgé seulement de 27 ans, hein. Qui était directeur général de la compagnie à ce moment-là, puis ben là, il dit, tu vas prendre plus de responsabilités, mais là, ça se retrouvait dans un contexte, tu sais, tu sais, comme une toupie, là. Tu avais des clients qui faisaient faillite, qui étaient importants pour eux autres. Le Event Cycle en Angleterre, Cycle Performance aux États-Unis. Il y avait aussi toute la restructuration qui s'en venait. Ils ont été obligés de fermer une unité de production textile à Saint-Augustin-de-la-Mort, là, qui a été obligé de licencier 50 personnes. Tu sais, quand tu es un entrepreneur, licencier du monde qui travaille chez toi, là, c'est jamais facile. Tu sais, en mars 2020, ils se sont trouvés presque sur la loi de la faillite, là. Puis en plus, M. Garneau a perdu son père, là, Paul Garneau. Écoute, puis là, bon, ça a pris 9 mois, là, ils ont repris quand même de restructurer ça, mais il y a eu quand même une période où ce que lui, il a souffert d'un burn-out, il le reconnaît, t'sais. Il dit, il avait jamais pensé qu'il y arriverait de frapper un mur à 60 ans, là, t'sais. Puis là, il décrit, tu sais, un petit peu, là, c'est intéressant dans le livre où ce qu'il disait, tu sais, pendant un bon bout de temps, l'idée du poker face, il disait, oh, tout allait bien, que c'était un problème de glande thyroïde, mais il savait très bien là, que c'était plus difficile que ça. Là. Donc, mais il semble que les relations de son fils et lui se sont rétablies selon ce que. Et à preuve de ça, c'est que lui-même, avec un autre fils, son fils Edouard, ils sont en train de partir une nouvelle business actuellement, des fours à pizza, du café, etc. Donc, tu sais, les entrepreneurs, là, ils ont beau descendre, mais ils ont toujours en tête peut-être de créer des nouvelles opportunités d'affaires. Ce que je comprends, c'est que Louis Garneau regarde d'autres possibilités et aussi l'idée potentiellement à un moment d'aller en bourse avec Garneau, qui est quand même une marque québécoise qui est reconnue internationalement. Tu parles de Garneau, là, c'est connu, les bicyclettes Garneau et les compagnies, là.
Écoute, c'est plus comme avant être directeur d'une entreprise. Hein. Avant, mettons, tu avais une bonne idée, tu trouvais là, vraiment un flash incroyable, tu partais ton entreprise, puis là, l'entreprise fonctionnait bien, puis tu pouvais un peu t'asseoir sur tes lauriers, puis bon, tu sais, surfer le vent dans le dos. Aujourd'hui, la compétition, elle est toujours là, il y a toujours des gens qui vont arriver avec une meilleure idée que toi, il faut tout le temps que tu travailles comme un fou.
Eh bien, tu sais, moi, je pensais à ça, je marchais dans Montréal ce week-end. Écoute, le nombre d'affiches marquées cherche employé, il y en a partout. Ça veut dire que imagine-toi quand t'es un entrepreneur, là, tu trouves pas personne pour tu sais, la preuve de ça, c'est qu'il y en a qui commencent déjà à réduire leurs heures d'affaires, tu comprends-tu? J'ai vu des restaurants actuellement, là, du mercredi au dimanche maintenant, qui sont fermés lundi, mardi. Même il y en a qui ferment jusqu'à mercredi, puis ils gardent juste le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'ils se disent que ça va être plus rentable que d'être ouvert ou si tu n'as pas personne, tu n'as pas de personnel. Donc, être entrepreneur aujourd'hui, là, moi, je lève.
Oh non, c'est vraiment dur.
C'est un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Hein? Malgré les difficultés, ils foncent tout le temps, puis ils pensent à d'autres projets déjà. Donc, ça vaut vraiment la peine de lire ce livre-là. Là, je suis tombé 2 fois de Louis Garneau. Là. Ça explore vraiment la.
Non, puis c'est bien de voir des gens qui sont perçus comme des modèles dans la société, là, comme des géants, etc., de dire, ben j'ai eu un problème, puis j'ai dû consulter, j'ai dû aller voir un psy, c'est un bon message à envoyer aussi. Tu sais, il y a des gens, là, je le dis tout le temps, les gars, quand ils ont un petit bruit dans le moteur de leur auto, ils s'en vont au garage, s'en vont voir le mécanicien, qu'est-ce qui se passe là, mais quand ils ont un petit bruit entre les deux oreilles, ils veulent pas consulter. Alors là, Louis Garneau dit, vous avez pas de honte à aller consulter. Si tu as un problème au ventre, si un problème au poumon, tu vas aller consulter un médecin. Même chose pour les problèmes psychologiques.
Exactement, puis tu fais pas le poker face.
Exactement. Et écoute, la chronique finance personnelle dans vos poches, est-ce qu'on devrait réhypothéquer sa maison pour payer ses dettes?
Ça, c'est vraiment une bonne chronique d'Emmanuel Grill dans vos poches, là, parce que beaucoup de gens se posent cette question-là, tu sais, parce que là, les propriétés ont beaucoup monté de valeur, là. Puis là, la question, c'est le cas auquel fait référence Emmanuel Grill ce matin, là. C'était un gars qui était connu au pied dans une entreprise de plomberie, là, normalement, il a 58 ans. Puis là, il est en affaires depuis 3 ans, et là, lui, sa carte de crédit est pleine à 55 000 $. Puis là, sa femme a fait juste 25 000. Lui, il est capable de faire 40 000, mais là, il a des dettes, là. Puis en plus, il y a une hypothèque à payer sur une maison de 320 000. Il y a 185 000 qu'il doit en hypothèque. Puis là, il était voir des gens pour savoir se faire conseiller. Et là, il dit, ben, peut-être la solution, c'est peut-être de, si ta maison a pris de la valeur, tu comprends-tu, d'emprunter sur cette valeur-là à un taux, évidemment, qui est actuellement peut-être de 2,5 pour pouvoir payer pendant, sur une longue période, près de 15 ans ta dette pour te débarrasser de tout ça. Sauf que le seul problème avec cette solution-là, c'est que comme ils sont copropriétaires, lui et sa femme, ça veut dire que sa femme est aussi responsable de la dette à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas présentement avec sa dette de carte de crédit. Donc, une bonne chronique à lire pour ceux qui font face à une dette et qui regardent toutes sortes de solutions. Ça vaut la peine de lire cette chronique-là ce matin dans vos pages, dans 5 jours du journal.
En espérant que le taux hypothécaire n'augmentera pas.
Ah, ben ça, là, il faut être prudent là, là-dessus. Bon, déjà, la Réserve fédérale a envisagé potentiellement une augmentation des taux d'intérêt, mais tout ça qu'actuellement, tous les pays à travers le monde ont le pied sur le frein puis sur le gaz par rapport à ça, parce que s'il y a des augmentations trop importantes de taux d'intérêt, là, tu vas en avoir les entreprises qui vont être prises avec plus d'endettement qui vont devoir payer ça. Les gouvernements, oublie pas, on est responsablement endettés. Tu as des individus qui ont probablement, même s'ils ont un taux d'épargne plus élevé, compte tenu de la. Ils se sont même endettés beaucoup pour acheter des propriétés qui valent de plus en plus cher. Donc, l'arrivée d'un taux d'intérêt plus élevé, là, ça peut être dangereux, mais peut-être que ça va être le cas pour éviter de, que le monde continue à dépenser comme il dépense actuellement.
Oui, tout à fait. On se croise les doigts. Merci beaucoup, Yves Daou. On se parle demain. Bye.
À demain.